Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je vous souhaite un très agréable sabbat. Dans près de 3 mois, cette année, aura lieu le couronnement du roi Charles III d'Angleterre. Il est dit que ce sera un couronnement plus bref dans son déroulement que celui de la reine Élisabeth II en 1953, souvenez-vous, il y a presque 70 ans. La tradition veut que les souverains britanniques reçoivent, pendant la cérémonie de couronnement, 3 épées. Et ce, depuis le roi Charles Ier, en 1626. 2 épées représentent l'exercice de la justice. L'une est dite temporelle et l'autre est dite spirituelle. Elle symbolise le pouvoir de la responsabilité de la justice du souverain britannique, la justice religieuse et la justice civile. Il existe une 3e épée dont le nom est Curtana ou Cortana. On l'appelle souvent l'épée de la miséricorde. Une pièce qui fait partie d'ailleurs des joyaux de la couronne britannique. Curieusement, la lame de cette épée est brisée à son sommet. C'est une épée qui mesure 1 mètre de long et elle est raccourcie à peine de 2 centimètres seulement. D'où son nom, Curtana, venant du latin curtus, qui signifie « court ». Et son origine remonte au roi Édouard le Confesseur, le prédécesseur de Guillaume de Normandie sur le trône d'Angleterre. Selon la légende, elle aurait appartenu à Ogier le Danois, l'un des paladins de l'empereur Charlemagne. Quant à l'histoire mythologique de cette épée, elle raconte que sa pointe aurait été cassée par un ange pour empêcher un meurtre injustifié. Elle symbolise, en quelque sorte, le fait que lorsqu'elle est utilisée, cette épée brisée ne peut plus remplir l'office pour laquelle elle avait été initialement forgée. Il y a donc effectivement dans ce symbole une action miséricordieuse qui redonne l'espoir de la survie, d'où son nom, l'épée de la miséricorde. Elle rappelle donc au souverain britannique qu'au-delà de la justice dont il est responsable, il existe aussi la vertu de la pitié et de la miséricorde, dont il est aussi responsable. En tant que chrétien, nous savons d'ailleurs que le pardon, la pitié, la miséricorde sont des notions essentielles que nous devons bien sûr bien comprendre. Mais tout compte fait, qu'est-ce que la miséricorde? Comment définissons-nous la miséricorde? C'est notre point numéro 1, définir la miséricorde. Pour commencer, nous pourrions dire très simplement que la miséricorde, c'est lorsque la gentillesse est exprimée au lieu d'une réprimande sévère qui aurait été normalement méritée. Nous comprenons que la miséricorde est donc la compagne du pardon. Car pour que la miséricorde puisse s'exprimer de façon sincère, il faut bien sûr que le pardon s'installe, lui aussi, et pour de vrai. Ce n'est pas une action injuste, puisque Dieu est lui-même miséricordieux envers nous tous. Tous nous méritons en effet le salaire de nos péchés, c'est-à-dire la mort. La Bible le déclare clairement dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Et donc, être miséricordieux, c'est d'abord être bienveillant. Quand Dieu exerce sa miséricorde envers nous, il nous fait du bien. Et nous devrions nous sentir humblement redevables envers lui. De fait, si nous marchons plus humblement avec Dieu, après un jeûne, ou peut-être après une maladie ou une condition médicale sérieuse, alors nous faisons automatiquement un peu plus attention à ne pas laisser le mépris ou l'arrogance s'installer dans notre comportement vis-à-vis des autres. Nous cherchons au contraire à faire plaisir. Nous prions pour nos frères et sœurs positivement, plus intensément. Nous devenons donc prévenants. Nous aidons. Nous nous rendons utiles. Un tel bon exemple peut aussi calmer beaucoup de colère chez quelqu'un qui est peut-être méfiant ou en colère contre nous, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, ou qui ne nous apprécie pas. Quand nous sommes vraiment miséricordieux, nous sommes donc aussi bienveillants. Nous cessons de supposer le mal pour un oui ou pour un non. Nous recherchons ce qui est positif chez les autres, ce qui devrait nous permettre de mieux les considérer et de mieux les apprécier. Oui, il y a eu une offense, mais la miséricorde dépasse l'offense. Elle se projette vers l'avant, dans l'avenir. Elle espère le changement, une nouvelle attitude. Elle espère la réconciliation et le pardon. La miséricorde, c'est comme un nouveau départ. C'est pourquoi être miséricordieux, c'est aussi être prévenant, préparer les choses. Selon le dictionnaire de l'Académie française, être prévenant, c'est aussi être obligeant, c'est aller au-devant de tout ce qui peut faire plaisir et qui est agréable. Voyons ensemble quelques exemples bibliques de miséricorde en action. Le premier se trouve dans Luc chapitre 15 et au verset 11 à 32. Luc, évangile selon Luc, chapitre 15, verset 11. Nous connaissons bien l'histoire du fils prodigue qui prend son héritage, qui s'en va loin de sa famille et qui dilapide son héritage, qui dilapide les biens de son père et se retrouve bientôt dans la misère la plus extrême. Il commence à revenir de son orgueil, il réfléchit. Alors commençons la lecture maintenant au verset 20, Luc chapitre 15, verset 20. Et il, le fils prodigue, et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Notez bien ici, notez bien la bienveillance de son père, sa prévenance, sa miséricorde. Il ne connaît même pas la disposition d'esprit de son fils. Peut-être son fils est-il toujours hautain, peut-être est-il toujours orgueilleux. Quelle disposition d'esprit a-t-il ? Peut-être est-il toujours indépendant. Peu importe, l'esprit du Père est centré sur un aspect positif, il est bien disposé, et c'est même d'ailleurs un euphémisme que de dire ça. Je devrais plutôt dire qu'il est quasiment fou de joie de voir son fils. Il ne savait pas où il était, il pensait peut-être qu'il était mort. Pensez-y, son fils qui était perdu est maintenant retrouvé. Verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Une repentance véritable, sincère. C'est certainement plus que ce que le père n'espérait en fait. Mais là, son père ne change pas d'état d'esprit. Il n'est pas en train de se dire, « Oh oui, tiens, après tout, c'est une bonne idée, on va le mettre avec les serviteurs pendant un an, et puis on va voir s'il se comporte bien. » Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Non, pas du tout. Remarquez verset 22, « Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il ne méprise pas son fils. Comment le pourrait-il d'ailleurs ? Nous le savons bien, il l'aime profondément. Alors bien sûr, tout cela va fortement déplaire à son frère aîné. Notez bien que lui refuse, regardez bien son attitude, il refuse de voir et de parler à son frère. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Vraiment à supporter pour moi. Vraiment. Mais lisons ce que le père vient lui dire au fils aîné, justement. « Mon enfant, lui dit le père, verset 31, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Comment ça, tout ce qu'il a est à lui ? Eh oui. J'ouvre une parenthèse ici. En tant que fils aîné, il avait même droit à une double portion d'héritage par rapport à son frère cadet. Rappelez-vous, selon la loi, dans Deutéronome chapitre 21, le frère aîné a toujours une double portion par rapport à ses frères. Et comme le père n'a que deux fils, et que son frère cadet a déjà réclamé sa part, souvenez-vous, le frère aîné hérite donc de tout le reste de l'héritage. Et donc, le récit est parfaitement cohérent, c'est-à-dire les deux tiers. Et cela lui a été réservé. Ça devait être probablement beaucoup, beaucoup de possessions, beaucoup d'argent, beaucoup de terrain, car le père avait les moyens d'avoir des serviteurs. Et donc, on peut se demander, mais de quoi le frère aîné, le fils aîné, de quoi se plaint-il ? Ah, évidemment, le veau gras faisait partie de son héritage potentiel. Il doit être donc de très mauvaise humeur. Mais visiblement, il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre ce que veut dire le mot « miséricorde », y compris la définition, les synonymes et la façon de mettre en pratique ce mot, la miséricorde. Et c'est ce que le père, d'ailleurs, essaye de lui faire comprendre. Il continue en disant, verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer. Il fallait bien se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est cela qui compte. C'est bien plus important. Le fils aîné était spirituellement aveugle. Il ne voyait pas avec les yeux de la miséricorde. Il ne voyait pas comme son père voyait les choses. Il ne respirait finalement que mépris et dédain pour son frère. C'est en fait un bien triste constat pour son père. Un autre exemple de miséricorde trouvé dans la Bible, dans le livre de Jonas au chapitre 4. Nous commencerons au verset 1. Jonas, chapitre 4, vous connaissez bien le récit du livre de Jonas. Dieu envoie Jonas à Ninive pour prévenir la population de l'arrivée d'une catastrophe imminente. À moins qu'un changement d'attitude n'intervienne, à moins qu'un véritable repentir ne prenne place. Et c'est précisément ce qui va se produire. Les habitants de Ninive comprennent, ils sont intelligents. Ils finissent par se repentir et ils publient un jeûne. Ils s'humilient devant Dieu. Ils prennent les choses au sérieux. Notez bien, Jonas dit « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Il ne semble pas dire autre chose, c'est un message très court. Était-ce l'intégralité du message de Jonas ? La Bible ne le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les habitants de Ninive survivent, ils comprennent et ils font ce qu'il faut faire. Ils jeûnent, ils prennent le deuil et ils se repentent de leurs péchés. Peut-être ont-ils en mémoire, d'ailleurs, le destin de Sodome et de Gomorre. Ils voient ces choses arriver et se disent « Non, il faut faire quelque chose ». Jonas, chapitre 4, verset 1, commençons la lecture. « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, il le prit, et il lui dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? Et c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Car la mort m'est préférable à la vie. » Verset 4, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville, et là il se fit une cabane, et il s'y tint à l'ombre. Voyons ce qui arrive maintenant. Il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Puis l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie. Tiens, changement de caractère, à la cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Alors Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort ». Et l'Éternel dit « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître. C'est lui, c'est Dieu qui l'a fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Dieu remet ici les choses à leur place, dans le bon ordre. Le ricin n'est pas l'œuvre de Jonas, nous l'avons vu, c'est l'œuvre de Dieu. Les habitants de Ninive, de même, ne sont pas l'œuvre de Jonas, c'est Dieu qui les a créés. Ils sont les enfants de Dieu, ils sont l'œuvre de la magnifique création de Dieu, leur Père, qui prend soin de leur vie spirituelle, de leur vie éternelle. Ils se sont repentis. C'est ça l'important. Alors, pourquoi Jonas a-t-il eu cette réaction? Nous ne connaissons pas son passé, la Bible ne nous le révèle pas, mais une chose est sûre, lui aussi il a besoin d'apprendre la miséricorde. Et c'est une des leçons du livre de Jonas. Encore un troisième exemple de miséricorde dans la Bible. Reportons-nous à Actes chapitre 9, verset 3. Actes chapitre 9, le verset 3, où nous verrons Saul, qui deviendra Paul, sur le chemin de Damas. Saul était en chemin et s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me méprises-tu? Pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Et Paul écrit à Timothée sur ces faits dans sa première lettre au chapitre 1 et au verset 12. Il écrit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Quelle leçon pouvons-nous retirer de l'expérience de Saul, celui qui allait devenir l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas? Visiblement, dans sa vie, il y a eu un avant-chemin de Damas et un après-chemin de Damas. C'était son appel. Plus loin, il conclut, non sans une certaine émotion qui est aisément perceptible au-delà des mots qu'il écrit, « C'est une parole certaine, écrit-il, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais, dit-il, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, Dieu seul, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul, ici, rend gloire à Dieu. Il est extrêmement reconnaissant. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Il a compris qu'il aurait été perdu sans le sacrifice miséricordieux de Jésus-Christ et qui nous touche tous de même, avec une puissance, avec un impact, avec une grâce que les mots ne peuvent décrire tant les conséquences sont incommensurables dans nos propres vies. Et Paul comprend cela. Il inclut de fait tous les croyants présents et futurs. Et dans ce processus divinement miséricordieux, dont il est lui-même le témoin, exactement comme nous-mêmes appelés et transformés, nous en sommes aussi les témoins dans nos propres vies. Soyons donc toujours reconnaissants dans nos prières de la grâce qui nous est faite, de la miséricorde de Dieu pour nous personnellement dans chacune de nos vies. Au-delà de ces actes et de ces pensées répréhensibles dans chacun de ces exemples, nous nous posons peut-être la question, mais pourquoi devait-il montrer de la miséricorde? Pourquoi devait-il, devons-nous, nous aussi, apprendre la miséricorde? Après tout, chacun est responsable de ses propres offenses. Et chacun d'entre nous devra de toute façon en répondre devant le trône de Dieu. Avons-nous une difficulté en tant qu'individu, ou même en tant que couple dans l'Église, à nous asseoir en compagnie de telle ou telle personne, et avons-nous abandonné l'idée de leur adresser la parole pour une raison ou pour une autre, et de persévérer dans la discussion à l'Assemblée, ou au lieu de persévérer dans la discussion à l'Assemblée? Parfois, cela demande du courage, de la disponibilité, mais voyez-vous l'exemple de Jésus-Christ. Il se trouve que lui est allé voir les pécheurs, et aux pharisiens, qui s'indignait de le voir s'asseoir en compagnie des gens, dit-on, de mauvaise vie, des gens de peu de réputation, infréquentables, en quelque sorte. Et à ces pharisiens, Christ répond dans Matthieu, chapitre 9, verset 13, il leur dit, « Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus s'adressait ici aux pharisiens qui s'étonnaient de le voir fraterniser avec des pécheurs, avec des hommes et des femmes sans réputation. Oh, eux, les pharisiens, se voulaient être, bien sûr, de bonne réputation. Ce n'est pas qu'une bonne réputation soit mauvaise, ce n'est pas ce que je dis, au contraire. Mais le problème, c'est qu'ils établissaient leur propre barrière sociale. Ils établissaient de façon arbitraire, leurs propres limitations, selon leurs propres opinions, sans tenir compte de la miséricorde. Ils se devaient de pratiquer la miséricorde. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas tendance à faire cela en établissant nos propres barrières sociales, nos propres opinions, nos propres conceptions de la décence chrétienne? Alors, notre justice dépasse-t-elle celle des pharisiens et celle des scribes, ou bien reste-t-elle en deçà de la justice des pharisiens et des scribes? Notons bien ce que Jésus nous rappelle dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, et le verset 20. Matthieu 5, verset 20, il dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Gardons-nous bien, frères et sœurs, de nous en tenir à notre propre opinion sur la dignité chrétienne. Mais si nous voyons un vrai péché que nous identifions comme tel, commis par quelqu'un d'autre, peut-être dans l'Assemblée, la bonne attitude est d'abord ceci, de se demander « Est-ce que ça me reflète moi ? Est-ce que c'est moi ça, cette façon de se comporter ? Est-il possible que ce soit mon portrait tout craché ? Comme on dit ? Y a-t-il un petit peu de ça en moi ? Cela nous aide à garder les pieds sur terre et à nous garder un peu mieux de toute propre justice et finalement de l'hypocrisie. Espérons-le. Nous devons constamment surveiller nos standards de miséricorde, de pitié, de bienveillance et de prévenance. Nous ne devrions pas faire de différence sociale, en fait. Certes, nous avons, bien sûr, nos amis, nos affinités, les gens que nous apprécions plus particulièrement. C'est normal. Mais alors les pharisiens faisaient la même chose, ils restaient dans leur zone de confort. Nous devrions sortir de la boîte, comme on dit, de notre zone de confort et aller vers les autres. Comment faire ? Comment pratiquer la miséricorde, la bienveillance, comme Dieu veut que nous la pratiquions ? Point numéro 2, c'est justement le point qui nous parle de la pratique de la miséricorde. Pratiquer la miséricorde. Alors évidemment, avec la réception de la formidable miséricorde divine, nous recevons aussi, bien sûr, une responsabilité naturelle. Nous comprenons qu'il est bien évident, en effet, que nous devons, nous-mêmes, de pratiquer cette miséricorde à notre niveau, à notre dimension, au profit de ceux que nous nous devons d'aimer. Qui sont-ils ? Eh bien, tout d'abord, je crois que nous comprenons tous que les membres de nos propres familles prennent peut-être la première place. Nous devons nous soucier d'eux, nous devons être bien sûrs que nous sommes en bon rapport avec eux. Parfois, c'est difficile. Vous savez, dans nos familles, bien souvent, toute notre famille n'est pas dans l'Église. Et c'est peut-être plus difficile. Sommes-nous miséricordieux vis-à-vis d'eux ? Ensuite, bien sûr, nos frères et sœurs en Christ, dans l'Assemblée, au fait, sommes-nous miséricordieux avec eux ? Et enfin, nos voisins, notre prochain, les êtres humains du monde entier, en somme. Eux qui ne sont pas encore en contact avec la vérité de Dieu, mais qui un jour le seront. Nous nous devons nous-mêmes donc de pratiquer la miséricorde. Et comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs ? Pourtant, il existe un exemple biblique qui nous est rappelé et qui nous montre ce à quoi il faut s'attendre si nous ne faisons pas preuve de miséricorde. Reportez-vous, s'il vous plaît, avec moi dans Matthieu chapitre 18 et le verset 21. Matthieu chapitre 18 et le verset 21. Verset 21, « Alors Pierre s'approcha de lui, Jésus-Christ, et il lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 70 fois, 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Il commence l'explication de cette parabole du roi et de ses serviteurs. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Une somme énorme. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût donc acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, à nouveau, rappelez-vous, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et disait, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui s'était passé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon ? comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père, dit Jésus-Christ, mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » En lisant cette parabole, nous sommes tous, comme les autres serviteurs, navrés, indignés de l'attitude de cet homme que Dieu appelle un méchant serviteur. Et c'est typiquement le type de piège dans lequel nous ne voulons pas tomber. Il nous faut donc mesurer, évaluer notre comportement. Sommes-nous dans ce cas? Suis-je dans ce cas? Dans les petites choses comme dans les grandes choses. Nous savons que Christ, notre Sauveur, a payé cette amende pour nous tous. Et nous qui sommes censés être convertis, nous avons compris son sacrifice. Et nous recevons cette miséricorde avec le baptême, avec l'imposition des mains. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Avec l'Esprit de Dieu, oui, nous pouvons exercer la miséricorde. Il nous faut donc aller de l'avant, être miséricordieux, puisque tous nous désirons un traitement miséricordieux pour nous-mêmes. Je désire un traitement miséricordieux pour moi-même. J'ai vu la miséricorde de Dieu en action qui est venue me reprendre et me remettre dans l'Église. Dieu est grand et miséricordieux. C'est bien le moins que nous puissions faire en tant qu'être humain, converti, repenti. Jésus-Christ nous encourage à devenir miséricordieux. Et il nous le dit dans Matthieu chapitre 5, encore une fois, dans le sermon sur la montagne, au tout début, dans les béatitudes, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est donc la raison pour laquelle il nous faut, nous aussi, apprendre la miséricorde, si nous voulons que Dieu nous fasse miséricorde. Troisième point, nous savons que, oui, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et donc c'est cela, aimer la miséricorde. C'est le troisième point. Apprenons à aimer la miséricorde. Aimons la miséricorde, prenons plaisir à la miséricorde. Il faut non seulement savoir ce que c'est la miséricorde, il faut donc apprendre, il faut donc pratiquer, mais il faut aussi aimer, il faut le faire de tout cœur. Prendre plaisir à cela. Prendre plaisir à pratiquer la miséricorde. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ, encore une fois, dans Matthieu, chapitre 9, verset 13. « Allez, dit-il, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Et nous nous souvenons aussi des paroles du Christ qui nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est dans Luc, chapitre 14, verset 12. Et c'est également répété dans le livre des Actes, écrit par Luc aussi, au chapitre 20 et au verset 35. Déjà, nous pouvons à peine imaginer à quel point cela est réconfortant pour nous d'obtenir miséricorde, à part peut-être sans doute la joie que nous éprouvons au sortir du service de la Pâque, de savoir que nous sommes graciés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous célébrons ce soir-là. Mais s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors, en toute logique, il est encore plus réconfortant, il devrait être encore plus réconfortant d'exercer la miséricorde que de recevoir la miséricorde. Pensons-y un instant. Vous savez, quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un vous fait du mal, que nous dit notre nature humaine? Que me dit ma nature humaine si quelqu'un me fait du mal? Allez, vas-y, venge-toi. Ce n'est pas cela la voie chrétienne. La vengeance appartient à Dieu, nous le savons bien. Nous ne devons pas nous venger. Être gracieux, plutôt. Ne pas répondre au mal par le mal, mais parler selon l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Vous savez, une fois que les passions sont retombées, dans un débat politique par exemple, de quoi les gens se souviendront-ils? Se souviendront-ils de cet interlocuteur méchant et insultant ou se souviendront-ils de celui qui a souffert, qui a laissé parler cet interlocuteur, et qui, au lieu de cela, s'est mis à parler avec le sel de la grâce et de la miséricorde? Vous savez, les gens se rappelleront de cette personne, ils soupèseront les mots qui ont été employés, des mots positifs, des mots qui montrent la lumière chrétienne chez cette personne, la lumière de la parole de Dieu. Et c'est le vrai destin du chrétien, d'ailleurs. Il est, elle est, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, le sel de la terre et la lumière du monde. Nous nous efforçons de le faire à travers notre exemple qui se doit de refléter l'exemple parfait de Jésus-Christ. Où trouvons-nous cet exemple dans la Bible? Dans les évangiles, bien sûr, nous nous souvenons de l'attitude gracieuse du Christ alors qu'il était en train de souffrir son exécution. Il avait la force encore de prier son Père, de le supplier, d'intercéder pour ses bourreaux. Étant donné, eux aussi, leur ignorance, il disait à son Père, ne leur impute pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Cet épouvantable péché meurtrier. Et bien sûr, nous trouvons l'exemple miséricordieux de Jésus-Christ tout au long de sa vie, avec les gens qui avaient besoin d'être guéris, avec les miracles, avec la vie qu'il menait au milieu de ses disciples. Constamment, tout indique, en fait, la miséricorde de Christ. Et puis, nous trouvons aussi la miséricorde de Christ en action à travers la louange de l'Éternel, le rocher d'Israël, dans l'Ancien Testament. Il était la parole, il est celui qui est Dieu avec Dieu et qui est venu dans la chair, Christ lui-même. Par exemple, dans le psaume 103, un psaume de David, David dit ceci, psaume 103, verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs, et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. David célébrait la miséricorde de Dieu à longueur de cantiques. Et dans le célèbre psaume 136, un autre psaume sur la miséricorde éternelle de Dieu, le roi David répète en fait 25 fois la raison du premier verset. Car sa miséricorde dure à toujours. Donc 26 fois dans ce psaume, nous trouvons cette phrase « car sa miséricorde dure à toujours ». Nous louons Dieu à cause de sa création et à cause de tous ses hauts faits, ses délivrances, ses bénédictions. Mais tout cela en fait existe car sa miséricorde dure à toujours. En effet, Dieu aurait pu, s'il l'avait décidé, partager tout cela avec d'autres générations. Mais nous sommes là, ici. Nous sommes les bénéficiaires. Nous recevons ses bénédictions et nous recevons sa miséricorde. Dieu est fidèle à ses promesses. Il est miséricordieux. Dieu est amour. Et à cause de son amour, de sa fidélité et de sa miséricorde, nous sommes les heureux récipiendaires. Nous recevons cette gloire et ces bénédictions. Nous sommes les heureux bénéficiaires de toutes ces merveilleuses choses. Oh, non pas à cause de nous, mais à cause de lui, à cause de Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, et à cause de sa miséricorde et à cause de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur, par la grâce duquel nous sommes sauvés. Non pas encore définitivement, mais sachant que nous continuons de courir en travaillant à notre salut avec crainte et avec tremblement. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde à un point inimaginable pour nous autres êtres humains, au point de donner son Fils unique bien-aimé qui, de tout temps, de toute éternité, a été avec lui. Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, lequel s'est associé lui-même librement, de son plein gré, à cette miséricorde et à ce sacrifice. De fait, la miséricorde de notre Père Céleste et celle de son Fils surpasse toute autre miséricorde, en gloire, en honneur et en dignité. C'est donc la raison pour laquelle nous autres, enfants de Dieu, heureux récipiendaires de l'Esprit de Dieu, nous nous devons de pratiquer, d'aimer, de prendre plaisir, nous aussi, à la miséricorde, selon l'exemple de Christ et au moyen de l'Esprit de Dieu. Il nous faut continuer donc d'apprendre, alors que nous sommes encore charnels. Aimer la miséricorde, prendre plaisir à la miséricorde, ne sont pas des choses en fait difficiles. Dès lors que Dieu et son Fils, Jésus-Christ, font leur demeure en nous, en moi, en vous. Mais cela demande de la persévérance, cela demande de l'humilité, à mesure que nous continuons de marcher comme il a marché. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 2 et au verset 13, nous montre la puissance de la miséricorde. Parlons-en. Jacques chapitre 2, verset 13. Jacques dit, car il écrit, « Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. » Cette déclaration est extraordinairement puissante. La miséricorde triomphe du jugement. En fait, la puissance de ce verset est à l'image d'ailleurs de toute l'épître de Jacques, qui, soit dit en passant, est probablement mon livre favori dans la Bible, tant il montre la puissance de la parole de Dieu. À sa façon, la façon d'écrire de Jacques est vraiment particulière. Il écrit d'une façon très accessible, très compréhensible pour nous. Par exemple, quand Jacques, j'ouvre ici une parenthèse, quand Jacques approuve les œuvres qui marchent côte à côte avec la foi, il dit « la foi sans les œuvres est morte ». Les œuvres sont donc le compagnon de la foi dans notre course vers le salut éternel. Martin Luther, le fameux, on peut dire le fondateur du protestantisme, détestait l'épître de Jacques qu'il appelait une lettre de paille, parce qu'elle contredisait précisément toute sa théologie, ou devrais-je dire toute la conception qu'il avait de la théologie chrétienne. Et Martin Luther n'a pas voulu se repentir et comprendre que la foi sans les œuvres est effectivement morte. C'est dire la puissance donc de cette courte épître de Jacques qui renverse littéralement tous les raisonnements humains. Et donc, Jacques, au chapitre 2, fait donc cette déclaration, la miséricorde triomphe du jugement. Vous savez, dans ce monde, bien des choses peuvent triompher du jugement des hommes. En fait, la corruption, nous le savons bien, par exemple, peut triompher de la loi des hommes. Malheureusement, le mal subsiste. Et bien des gens qui agissent avec droiture, eux, se voient cependant spoliés de leurs droits à cause de la corruption galopante qui s'insinue et qui se mêle des affaires de bien des nations. En revanche, rien, en fait, ne peut triompher du jugement de Dieu, excepté une chose, la miséricorde de Dieu. Elle peut triompher de son propre jugement, du jugement de Dieu. Et c'est ce que ce verset nous dit. Il est tellement puissant d'ailleurs qu'il résume à lui seul le véritable amour de Dieu. Rien que ça. En effet, la bonté de Dieu dont nous bénéficions avant même notre naissance, avant même notre appel, et puis année après année, jusque dans l'éternité, c'est en raison de la miséricorde de Dieu. Nous venons de le lire dans les psaumes. David, le roi, a énuméré toutes ses bénédictions, ses grâces, toutes ses bonnes raisons de louer Dieu à cause de sa miséricorde éternelle. Dieu est amour. Et son amour, eh bien, il l'exprime avec miséricorde dans toute sa création, dans son œuvre magistrale qui est l'homme, l'humanité, hommes et femmes. Nous sommes le chef-d'œuvre de sa création. Et cette création physique miséricordieuse a été faite pour nous, pour l'être humain, par pur amour de Dieu, par pur amour divin, avec la miséricorde divine. Alors, il est temps pour moi de conclure. Je rappellerai simplement que ce que nous avons vu, et donc à quel point nous devons prendre au sérieux l'admonition de Christ concernant notre besoin d'être miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Premièrement, nous avons appris plusieurs définitions du mot miséricorde. Nous en avons lu quelques synonymes et nous en avons trouvé trois exemples bibliques. Nous n'avons pas cité tous les versets sur la miséricorde, loin de là, mais vous pouvez certainement étendre cela à votre étude biblique personnelle au moyen d'une concordance. Deuxièmement, nous avons compris, vous et moi, qu'il nous faut nous-mêmes pratiquer la miséricorde, selon l'exemple de notre grand frère Jésus-Christ. Et les raisons évidentes pour lesquelles, aussi, il nous faut comprendre cela, les raisons évidentes pour lesquelles nous devons faire ces choses. Et troisièmement, enfin, nous reconnaissons que tout comme Dieu aime et prend plaisir à la miséricorde, il nous faut nous aussi aimer et prendre plaisir à la miséricorde. Nous ne saurions le faire sans l'aide de Dieu. Pour cela, comme pour toute autre chose, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et à besoin spirituel, requête spirituelle. Dans notre prière quotidienne, mettons la première de la journée. Eh bien, demandons à Dieu de nous permettre de marcher humblement avec lui et de pratiquer la justice et la miséricorde envers notre prochain. Faisons cela régulièrement, jour après jour. Travaillons pas à pas, morceau par morceau, pièce par pièce, élément par élément. Mais soyons sûrs de mentionner cela dans notre prière quotidienne. Et nous verrons qu'avec le temps qui passe, nous allons commencer à œuvrer autour de cette prière, à la contempler, à la compléter, devrais-je dire plutôt, par des commentaires personnels. Et à en faire non pas simplement une phrase répétitive, mais plutôt un moyen, un point de départ pour une expression sincère de notre pensée, de notre prière envers Dieu, de notre besoin de l'aide de Dieu lorsque nous le prions, afin de devenir miséricordieux envers notre prochain. Je vous souhaite une très bonne journée de sabbat.